studio Tamani, voici les informations en français.
18h à Gundam dans la région de Tombouctou. Merci de choisir Studio Tamani pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. 8 cadres de la rébellion ont été tués hier au cours d'une frappe aérienne à Tenzawaten dans la région de Kidal. L'annonce a été faite ce dimanche dans un communiqué de l'armée malienne. Journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Les organisations de défense des droits humains se réjouissent de l'interdiction de la pratique au Mali. Chaque année, 105 personnes contractent le VIH-Sida au Mali. L'information a été donnée ce lundi à Ségou lors de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la maladie. Voilà pour le titre, les détails, c'est juste après ça. Ce bulletin vous est présenté par Lala Diara Touré, Adjatou Traoré est à la technique. 8 hauts cadres de la rébellion ont été tués ce week-end au cours d'une frappe aérienne des forces armées maliennes. L'opération s'est déroulée à Tenzawaten, à la frontière algérienne. L'état-major a confirmé l'information dans un communiqué lu hier soir à la télévision nationale. Et cette Adjara nous en dit plus.
Ce dimanche 1er décembre, l'information avait déjà inondé les réseaux sociaux. Elle a été confirmée dans la soirée dans un communiqué de l'armée malienne. Parmi ces cadres de la rébellion tués, Chogib Ag Atayer, chef de tribune Idnan, Fahad Ag Al-Mahmoud, responsable du mouvement, Al-Baraka Ag Al-Faki, Moussa Ag Bay Diknan, Bachara Ag Hamed, Mohamed Ag Asherif, Jamal Ag Al-Baraka, Sid Ag Bay et nombreux autres combattants. À cela s'ajoutent de nombreux blessés et des dégâts matériels. À la veille de cette opération spéciale menée dans la région de Kidal, les groupes armés du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSP, DPA, avaient signé un pacte d'honneur marquant la dissolution de toutes les entités armées sous cette bannière pour former le Front de libération de l'Azawad, un regroupement qui assemble des groupes armés pouvant conduire à la libération totale de l'Azawad. C'est au cours de cette rencontre que l'armée a repéré leur position. Selon l'état-major général des armées, ces terroristes tués étaient responsables de plusieurs attaques à l'encontre des civils et des forces de défense maliennes dans la zone.
Ces frappes sont une avancée notoire pour l'armée malienne, mais ne marquent pas la fin de la lutte contre le terrorisme. Ces propos sont du Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre d'études stratégiques et sécuritaires. Il estime cependant que l'armée doit élargir les actions de développement pour sortir vainqueur. Il est joint au téléphone par Aïssa Tadjara.
Les ex-rebelles aujourd'hui bénéficieraient d'une certaine complicité du local, d'où toute l'importance pour l'État du Mali d'agir avec les réponses militaires, mais dans le même temps de chercher à aussi proposer d'autres réponses qui auront pour nom la justice sociale, le dialogue intra-communautaire. Tenzawaten, l'armée chercherait à exercer son contrôle sur cette localité et d'empêcher surtout les groupes radicaux violents alliés aux ex-rebelles d'extraire un certain nombre de ressources naturelles, de faciliter le trafic et même de nourrir l'économie criminelle.
Fidèles auditeurs, vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Dans un autre registre, à présent, la Journée mondiale de l'abolition de l'esclavage a été célébrée ce lundi 2 décembre 2024 dans le monde entier. À cette occasion, les défenseurs des droits de l'homme et les associations de lutte contre les pratiques esclavagistes estiment qu'au Mali, le phénomène s'affaiblit grâce à l'application des lois incriminant l'esclavage. Plus de détails avec Sita Sidibé.
Maître Mokhtar Marco est le président de l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH. Selon lui, l'implication des hautes autorités dans la lutte contre l'esclavage a fait des avancées remarquables au Mali.
Aujourd'hui, nous avons un code pénal qui a été voté au CNT et qui réprime sévèrement tout acte d'esclavage ou tout acte assimilé aux pratiques de l'esclavage. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que le Mali a beaucoup avancé dans la lutte contre l'esclavage.
Malgré les efforts fournis par les autorités pour lutter contre le phénomène, de nombreuses personnes subissent l'esclavage par ascendance, jusqu'à présent dans la région de Kaï. C'est ce qu'a déploré Tamba Konaté, président d'honneur de Gambana, une association de lutte contre la pratique.
À chaque fois Ce n'est plus comme avant, mais la pratique continue toujours, car il y a des zones qui sont sous embargo. Certains déplacés à cause des violences n'arrivent toujours pas à retourner. Je peux donc dire que l'esclavage continue.
Les défenseurs des droits de l'homme préconisent une sensibilisation à outrance pour mettre fin à cette pratique.
Autre célébration, mais cette fois il s'agit de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida qui a été commémorée ce matin à Ségou sous le thème « Promouvoir les droits humains, c'est contribuer à éliminer le Sida ». Cette célébration intervient au moment où le taux général de prévalence de la maladie est de 0,9% de la population au Mali. Selon le représentant du président de la transition à la cérémonie, plus de 42% des personnes vivant en 2023 avec le VIH-Sida ont accès aux médicaments. Le point avec notre collègue correspondant Ségou, Mohamed Sissé.
Ce thème vise à mettre l'accent sur le respect des droits humains en mobilisant les ressources importantes pour assurer la gratuité et la disponibilité des soins aux malades du VIH-Sida, a déclaré Général Alpha Mohamed Diaw, représentant du président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, au lancement de la journée.
Nous avons encore besoin de dépister au moins 40 000 personnes vivant avec le VIH. Alors jusqu'en fin 2023, seulement 42% des personnes vivant avec le VIH avaient accès aux soins de santé. Malheureusement, chaque année, 105 individus contractent le VIH-Sida au Mali, dont 58 filles ou femmes.
Pour le coordinateur des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida de la région de Ségou, les médicaments, notamment les antirétroviraux, sont disponibles dans toutes les structures de prise en charge de la région. Mais ils déplorent leur ravitaillement à médicaments des infections liées à la maladie.
On peut noter un certain nombre de difficultés. Par exemple, la dispensation communautaire des ARV. Les médicaments antirétroviraux sont disponibles, mais seulement c'est par rapport aux médicaments IO, les médicaments pour infections opportunistes, il y a certaines difficultés d'approvisionnement.
Il faut noter que la prévalence de la maladie est beaucoup plus élevée chez les personnes cibles, notamment les homosexuels et les travailleuses de sexe dans les zones d'orpaillage. De Ségou, Mohamed Sissé pour Studio Tamani.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Place à présent aux chroniques. Une vidéo largement partagée sur le réseau social TikTok fait croire que l'armée mauritanienne a pris le contrôle du camp militaire de Nara. Fatoumata Kodjo nous dit si la vidéo est authentique.
La vidéo a été publiée par le compte dénommé Zenega Media. Sur les images, on peut lire « L'armée mauritanienne vient de s'emparer de la base militaire malienne de Nara. Tous les Maliens ont pris la fuite. Espérons que les Maliens ont appris la leçon. » La vidéo montre des troupes militaires en mouvement dans une zone aride. À peine 6 secondes de lecture, la séquence change. On attend des coups de feu. On aperçoit également des individus agités qui courent en masse. Certains sont armés. Avant que la vidéo revienne encore sur des militaires. Vigilance, ces images n'ont pas été prises à Nara. Grâce à une recherche inversée sur Google Images, on est tombé sur la même vidéo partagée plusieurs fois en 2021. Elle a été postée sur Facebook par Hamid Lamani en décembre 2021 avec la légende « Oh, libitaire de paix, mon pays ». La séquence originelle est de 1 minute 6 secondes, accompagnée d'une chanson en arabe. D'autres pages Facebook en arabe aussi ont posté la même vidéo en 2021. Conclusion, ces images n'ont pas été tournées au Mali, mais plutôt en Libye. Signalons que depuis quelques semaines, ce compte dénommé Zenega Media diffuse des contenus pour faire croire qu'il y a une guerre entre le Mali et la Mauritanie.
Voilà qui est bien noté, Fatoumata Kodjo, d'une rubrique à une autre. L'addiction au thé est une maladie dont souffrent beaucoup de personnes. Et quand elles n'en ont pas, c'est bonjour les problèmes, n'est-ce pas Juliette Koulibaly?
C'est exact. Mon beau-frère Maman et le thé, une vraie histoire d'amour. Il en prend à tout moment, matin, midi et soir. Tous les matins, avant de faire quoi que ce soit, sa femme Binta lui tend son verre de thé fait à la malienne. C'est le secret des journées reçues pour lui. Lorsqu'il vient au service, c'est le planton qui prend le relais et ce pour tout le reste de la journée. Tout le monde a averti Maman de mesurer son affection pour le thé au risque de développer une dépendance. Un jour, sa femme a voyagé et Maman n'avait pas eu droit à son thé du matin avant d'aller au boulot. Il est sorti donc de la maison étant de mauvaise humeur et de violents maux de tête au point de ne pas pouvoir assister à la réunion matinale. Il comptait sur le planton pour rattraper le coup. Malheureusement pour lui encore, celui-ci était en congé. Et c'est là que Maman réalise à quel point il est devenu accro au thé, au point de l'empêcher de travailler. Chers auditeurs, prendre de temps à autre du thé ou autre boisson pour le plaisir est compréhensible, mais en faire un impératif peut souvent nous causer des désagréments.
Absolument, Juliette. L'excès de toutes choses nuit, dit-on. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Avec moi, dans ce studio, Imirana Kilumaiga, pour l'introduction du Grand Dialogue. Imirana, bonsoir. Dites-nous quel est le thème au cœur des échanges.
Bonsoir Lalla Diakhara Touré. Ce soir, il sera question du nouveau gouvernement, regard sur les 8 grandes orientations. Et nous avons comme invité Mme Samake Fatoumata Traoré, experte sur des questions de gouvernance politique. Dr Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Et Dr Ahmadou Touré, enseignant-chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali.
Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez les réécouter gratuitement et les magazines qui va suivre en appelant le service Kounafoni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. À demain. Plaise à Dieu. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu le mercredi dernier. Au cours de la rencontre, le président de la transition a donné des nouvelles orientations aux membres du gouvernement. Parmi celles-ci, l'organisation des élections. Ainsi, il a invité le gouvernement à s'engager dans des actions afin d'organiser des élections apaisées et transparentes. Si certains partis politiques sont optimistes sur ce dernier point, d'autres par contre s'interrogent encore sur le temps qu'elles prendront. La société civile, pour sa part, appelle à une participation effective de tous les acteurs. Plus de précisions dans ce magazine Gouvernance et Citoyenneté réalisé par Lale Tangara.
Les avis sont discordants depuis l'annonce des 8 axes fondamentaux du nouveau gouvernement. À l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICAD, les responsables estiment que l'organisation de l'élection présidentielle est un point crucial compte tenu du climat social. Fousseni Diop est le responsable programme gouvernance et engagement civil.
Au vu du climat actuel, il faut que le gouvernement actuel travaille déjà à apaiser le climat politique parce que je pense que beaucoup de partis politiques sont aujourd'hui en marche du processus. Il faut déjà qu'on puisse connaître rapidement un chronogramme pour aller rapidement à des élections transparentes et apaisées, comme le président de la transition l'a demandé.
La tenue des élections dépend d'une grande volonté politique. C'est ce que pense Alassane Abba, secrétaire général du parti politique CODEM. Selon lui, le fait que les élections soient citées parmi les priorités du gouvernement ne signifie pas qu'elles seront très vite concrétisées. Pour lui, il faut observer.
L'organisation des élections fait partie des missions prioritaires du gouvernement. Nous avons suivi cela, mais attendons voir. Quand on sait que lors du premier coup d'État, l'organisation des élections était attendue dans le plus court laps de temps et que nous sommes 4 ans après, jusqu'à présent sans élections, nous le disons simplement d'attendre. Attendons voir.
Et pourtant, l'autorité indépendante de gestion des élections, EJ, qui a reçu la visite du nouveau premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ce lundi, dit être dans des phases de formation de ses équipes. Moustapha Cissé, président de l'EJ.
Nous avons également assuré la formation des membres de coordination après leur installation, les cérémonies de prestation de serment devant l'autorité judiciaire. Nous avons ces derniers temps, monsieur le Premier ministre, élaboré des documents extrêmement importants. Nous avons décidé d'aller sur le terrain, non seulement pour aller superviser la révision des listes électorales LARAL de 2024, mais aussi nous avons comme mission d'assurer la formation de nos coordinations en vertu des dispositions de la loi électorale, notamment les cadres de concertation avec l'administration, les partis politiques.
Pour Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, ce qui est certain, une transition se termine toujours par l'organisation des élections. Ce dernier axe est bien à sa place
car il vient couronner les efforts consentis par les autorités, dit-il.
Ce qui est certain, de toute façon, une transition se termine toujours par des élections. C'est ce que ça veut dire. Quand vous regardez comment les priorités sont définies, l'organisation des élections transparentes et apaisées viennent en dernière position. Ça veut dire que c'est le couronnement de tous les efforts, effectivement, de la transition.
L'analyste politique Abdoul Sogodogo indique que différentes actions ont été prises dans le sens de l'organisation des élections, notamment le budget alloué au processus, ce qui prouve que ce n'est qu'une question de temps, apprécie-t-il.
On voit que le gouvernement de transition met effectivement la focale sur les élections. Récemment, l'EIJ s'est dite prête pour l'organisation des élections. Et dans le budget de l'année 2025, on a vu également qu'il y a une part belle du budget qui est accordée à l'organisation de ces élections. Donc, c'est maintenant une question de date et de temps. On s'attend effectivement à l'organisation des élections présidentielles.
Certains observateurs de la société civile pensent que, hormis la sécurité et la défense, l'organisation des élections devrait être l'unique axe prioritaire de la nouvelle équipe gouvernementale.